Avant de commencer ce discours, je voudrais remercier l'Académie de Suède de son accueil et la nation suédoise tout entière. Je suis très ému d'être ici à Stockholm et c'est une occasion tout à fait étonnante, tout à fait extraordinaire pour moi de m'adresser en public à vous. Pourquoi écrit-on ? J'imagine que chacun a sa réponse à cette simple question. Il y a des prédispositions, le milieu, les circonstances, les incapacités aussi. Si l'on écrit, cela veut dire que l'on n'agit pas, que l'on se sent en difficulté devant la réalité, que l'on choisit un autre moyen de réaction, une autre façon de communiquer, un temps de réflexion. Si j'examine les circonstances qui m'ont amené à écrire, je ne le fais pas par complaisance, mais par souci d'exactitude. Je vois bien qu'au point de départ de tout cela, pour moi, il y a la guerre. La guerre, non pas comme un grand moment bouleversant où l'on vit des heures historiques, par exemple la campagne de France, relatée des deux côtés du champ de bataille de Valmy, par Goethe du côté allemand et par mon ancêtre François du côté de l'armée révolutionnaire. Ce doit être exaltant, pathétique. Non, la guerre pour moi, c'est celle que vivaient les civils, et surtout les enfants très jeunes. Pas un instant, elle ne m'a paru un moment historique. Nous avions faim, nous avions peur, nous avions froid, c'est tout. Je me souviens d'avoir vu passer sous ma fenêtre les troupes du maréchal Rommel, remontant les Alpes à la recherche d'un passage vers le nord de l'Italie et l'Autriche. Cela ne m'a pas laissé un souvenir très marquant. En revanche, dans les années qui ont suivi la guerre, je me souviens d'avoir manqué de tout, et particulièrement de quoi écrire et de quoi lire. Faute de papier et de plume à encre, j'ai dessiné et j'ai écrit mes premiers mots sur l'envers des cahiers de rationnement, en me servant d'un crayon de charpentier bleu et rouge. Il m'en est resté un certain goût pour les supports rêches et pour les crayons ordinaires. Faute de livres pour enfants, j'ai lu les dictionnaires de ma grand-mère. C'était de merveilleux portiques pour partir à la reconnaissance du monde, pour vagabonder et rêver devant les planches d'illustration, les cartes, les listes de mots inconnus. Le premier livre que j'ai écrit à l'âge de 6 ou 7 ans, du reste, s'intitulait « Le globe à mariner », suivi tout de suite par la biographie d'un roi imaginaire appelé Daniel III, peut-être était-il de Suède, et par un récit raconté par une mouette. C'était une période de réclusion. Les enfants n'avaient guère la liberté d'aller jouer dehors, car les terrains et les jardins autour de chez ma grand-mère avaient été minés. Au hasard des promenades, je me souviens d'avoir longé un enclos de barbelés au bord de la mer, sur lequel un écriteau en français et en allemand menaçait les intrus d'une interdiction accompagnée d'une tête de mort. Je peux comprendre que c'était un contexte où l'on avait le désir de s'enfuir, donc de rêver et d'écrire ses rêves. En outre, ma grand-mère maternelle était une extraordinaire conteuse qui réservait aux longues heures d'après-midi le temps des histoires. Ses contes étaient toujours très imaginatifs et mettaient en scène une forêt, peut-être africaine ou peut-être la forêt mauricienne de Maccabée, dont le personnage principal était un singe doué de malice qui se sortait toujours des situations les plus périlleuses. Par la suite, j'ai fait un voyage et un séjour en Afrique où j'ai découvert la forêt véritable, à peu près dépourvue d'animaux. Mais un district officer du village d'Obudu, à la frontière des Cameroun, m'a fait écouter le crépitement des gorilles sur une colline voisine, en train de frapper leur poitrine. De ce voyage, de ce séjour au Nigeria, où mon père était médecin de brousse, j'ai rapporté non pas la matière de romans futurs, mais une sorte de seconde personnalité, à la fois rêveuse et fascinée par le réel, qui m'a accompagné toute ma vie et qui a été la dimension contradictoire, l'étrangeté à moi-même que j'ai ressentie parfois jusqu'à la souffrance. La lenteur de la vie est telle qu'il m'aura fallu la durée de la majeure partie de cette existence pour comprendre ce que cela signifie. Les livres sont entrés dans ma vie un peu plus tard. C'était sous la forme de plusieurs bibliothèques que mon père avait réussi à réunir et qui provenait de la dispersion de son héritage lorsqu'il avait été expulsé de sa maison natale à Moka, île Maurice. C'est alors que j'ai compris cette vérité qui n'apparaît pas immédiatement aux enfants, à savoir que les livres sont un trésor plus précieux que les biens immeubles ou que les comptes en banque. C'est dans ces volumes, la plupart anciens et reliés, que j'ai découvert les grands textes de la littérature universelle, le Don Quixote illustré par Tony Joanneau, la Vida de Lazarillo de Tormes, des Ingoldsby Legends, Gulliver's Travels, les grands romans inspirés de Victor Hugo, 93, Les Travailleurs de la Mer ou L'Homme qui rit, les contes drôlatiques de Balzac aussi. Mais les livres qui m'ont le plus marqué, ce sont les collections de récits de voyage, pour la plupart consacrés à l'Inde, à l'Afrique et aux îles Mascareigne, ainsi que les grands textes d'exploration de Dumont d'Urville ou de l'abbé Rochon, de Bougainville, de Cook, et bien sûr le Livre des Merveilles de Marco Polo. Dans la vie médiocre d'une petite bourgade de province endormie au soleil, après les années de liberté en Afrique, ces livres m'ont donné le goût de l'aventure. Ils m'ont permis de pressentir la grandeur du monde réel, de l'explorer par l'instinct et par les sens plutôt que par les connaissances. D'une certaine façon, ils m'ont permis de ressentir très tôt la nature contradictoire de la vie d'enfant, qui garde un refuge où il peut oublier la violence et la compétition et prendre son plaisir à regarder la vie extérieure par le carré de sa fenêtre.
Vous écoutez Tout arrive sur France Culture et ce discours de Jean-Marie Le Clézio prononcé hier à Stockholm en amont de la remise de son prix Nobel de littérature. L'écrivain français poursuit son discours en citant un autre écrivain suédois, celui-là, Stig Dagerman.
Comment est-il possible, par exemple, de se comporter d'un côté comme si rien au monde n'avait plus d'importance que la littérature, alors que de l'autre, il est impossible de ne pas voir alentour que les gens luttent contre la faim et sont obligés de considérer que le plus important pour eux, c'est ce qu'ils gagnent à la fin du mois. Car l'écrivain bute sur un nouveau paradoxe. Lui, qui ne voulait écrire que pour ceux qui ont faim, découvre que seuls ceux qui ont assez à manger ont loisir de s'apercevoir de son existence. Cette forêt de paradoxes, comme l'a nommé Stig Dagerman, c'est justement le domaine de l'écriture, le lieu dont l'artiste ne doit pas chercher à s'échapper, mais bien au contraire, dans lequel il doit camper pour en reconnaître chaque détail, pour explorer chaque sentier, pour donner son nom à chaque arbre. Ce n'est pas toujours un séjour agréable. Lui qui se croyait à l'abri, elle qui se confiait à sa page comme à une amie intime et indulgente, les voici confrontés au réel, non pas seulement comme observateurs, mais aussi comme acteurs. Il leur faut choisir leur camp, prendre des distances. Cicéron, Rabelais, Condorcet, Rousseau, Madame de Staël, ou bien plus récemment Soljenitsyn ou Hwang Sok-yong, Abdelatif Lahabi ou Milan Kundera, ont eu à prendre la route de l'exil. Pour moi, qui ai toujours connu, sauf durant la brève période de la guerre, la possibilité de mouvement, l'interdiction de vivre dans le lieu qu'on a choisi est aussi inacceptable que la privation de liberté. Mais cette liberté de bouger comme un privilège a pour conséquence le paradoxe. Voyez l'arbre aux épines hérissées au sein de la forêt qu'habite l'écrivain. Cet homme, cette femme occupée à écrire, à inventer leurs songes, ne sont-ils pas les membres d'une très heureuse et réduite « happy few » Imaginons une situation extrême, terrifiante, celle-là même que vit le plus grand nombre sur notre planète, celle qu'ont vécu jadis au temps d'Aristote ou de Tolstoï, les inqualifiables, les serfs, serviteurs vilains de l'Europe au Moyen-Âge, peuple rasé au temps des Lumières sur la côte d'Afrique, vendu à Gorée, à Elmina, à Zanzibar, et aujourd'hui même, à l'heure que je vous parle, tous ceux qui n'ont pas droit à la parole, qui sont de l'autre côté du langage. C'est la pensée pessimiste de Dagerman qui m'envahit, plutôt que le constat militant de Gramsci ou le pari des abusés de Sartre. Que la littérature soit le luxe d'une classe dominante, qu'elle se nourrisse d'idées et d'images étrangères au plus grand nombre, cela est à l'origine du malaise que chacun de nous éprouve. Je m'adresse à ceux qui lisent et qui écrivent. L'on pourrait être tenté de porter cette parole à ceux qui en sont exclus, les inviter généreusement au banquet de la culture. Pourquoi est-ce si difficile? Les peuples sans écriture, comme les anthropologues se sont plu à les nommer, sont parvenus à inventer une communication totale au moyen des chants et des mythes. Pourquoi est-ce devenu aujourd'hui impossible dans notre société industrialisée? Faut-il réinventer la culture? Faut-il revenir à une communication immédiate, directe? On serait tenté de croire que le cinéma joue ce rôle aujourd'hui, ou bien la chanson populaire, rythmée, rimée, dansée. Le jazz peut-être, ou sous d'autres cieux, le calypso, le maloya, le séga. Le paradoxe ne date pas d'hier. François Rabelais, le plus grand écrivain de la langue française, parti jadis en guerre contre le pédantisme des gens de la Sorbonne, en jetant à leur face les mots saisis dans la langue populaire. Parlait-il pour ceux qui ont faim? Débordement, ivresse, ripaille, il mettait en mots l'extraordinaire appétit de ceux qui se nourrissaient de la maigreur des paysans et des ouvriers, pour le temps d'une mascarade, d'un monde à l'envers. Le paradoxe de la Révolution, comme l'épique chevauchée du chevalier à la triste figure, vit dans la conscience de l'écrivain. S'il y a une vertu indispensable à sa plume, c'est qu'elle ne doit jamais servir à la louange des puissants, fût-ce du plus léger chatouillis. Et pourtant, même dans la pratique de cette vertu, l'artiste ne doit pas se sentir lavé de tout soupçon. Sa révolte, son refus, ses imprécations restent d'un certain côté de la barrière, du côté de la langue des puissants. Quelques mots, quelques phrases s'échappent, mais le reste, un long palimpseste, un atermoiement élégant et distant, l'humour, parfois, qui n'est pas la politesse du désespoir, mais la désespérance des imparfaits, la plage où le courant tumultueux de l'injustice les abandonne. Alors, pourquoi écrire? L'écrivain, depuis quelque temps déjà, n'a plus l'outrecuidance de croire qu'il va changer le monde, qu'il va accoucher, par ses nouvelles et ses romans, un modèle de vie meilleur. Plus simplement, il se veut témoin. Voyez cet autre arbre dans la forêt des paradoxes. L'écrivain se veut témoin, alors qu'il n'est la plupart du temps qu'un simple voyeur. Témoin, il arrive que l'artiste le soit. Dante dans la Divina Commedia, Shakespeare dans The Tempest, et Césaire dans la magnifique reprise de cette pièce appelée Une tempête, dans laquelle Caliban, à cheval sur un baril de poudre, menace d'emmener avec lui dans la mort ses maîtres détestés. Témoin, il l'est parfois de façon irrécusable, comme Euclides d'Acunha dans Os Certaeos, ou comme Primo Levi. L'absurde du monde est dans Der Prozess ou dans les films de Chaplin. Son imperfection dans La naissance du jour de Colette. Sa fantasmagorie dans la chanson irlandaise que James Joyce a mise en scène dans Finnegan's Wake. Sa beauté brille d'un éclat irrésistible dans The Snow Leopard de Peter Matheson ou dans A Sun County Almanac d'Aldo Leopold. Sa méchanceté dans Sanctuary de William Faulkner, ou dans Les premières neiges de Lao Tzu, sa fragilité d'enfance dans Ormen, le serpent de Duggerman. L'écrivain n'est jamais un meilleur témoin que lorsqu'il est un témoin malgré lui, à son corps défendant. Le paradoxe, c'est que ce dont il témoigne n'est pas ce qu'il a vu, ni même ce qu'il a inventé. L'amertume, parfois le désespoir, viennent de ce qui n'est pas présent au réquisitoire. Tolstoï nous fait voir le malheur que l'armée napoléonienne inflige à la Russie, et pourtant rien n'est changé dans le cours de l'histoire. Madame de Duras écrit Ourika, Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom's Cabin, mais ce sont les peuples esclaves qui changent leur propre destin, qui se révoltent et fondent contre l'injustice les résistances marronnes. Au Brésil, en Guyane, aux Antilles, et la première République noire en Haïti. Agir, c'est ce que l'écrivain voudrait par-dessus tout. Agir plutôt que témoigner. Écrire, imaginer, rêver, pour que ces mots, ces inventions, ces rêves interviennent dans la réalité, changent les esprits et les cœurs, ouvrent un monde meilleur. Et cependant, à cet instant même, une voix lui souffle que cela ne se pourra pas, que les mots sont des mots, que le vent de la société emporte, que les rêves ne sont que des chimères. De quel droit se vouloir meilleur? Est-ce vraiment à l'écrivain de chercher des issues? N'est-il pas dans la position du garde champêtre dans la pièce de Jules Romain, Noc ou Le Triomphe de la médecine, qui voudrait empêcher un tremblement de terre? Comment l'écrivain pourrait-il agir alors qu'il ne sait que se souvenir? Mais je ne voudrais pas me complaire dans une attitude négative. La littérature, c'est là que je voulais en venir, n'est pas une survivance archaïque à laquelle devraient se substituer, logiquement, les arts de l'audiovisuel et particulièrement le cinéma. Elle est une voie complexe, difficile, mais que je crois encore plus nécessaire aujourd'hui qu'au temps de Byron et de Victor Hugo. Il y a deux raisons à cette nécessité. D'abord, parce que la littérature est faite de langage. C'est le sens premier du mot « lettre », c'est-à-dire ce qui est écrit. En français, le mot « roman » désigne ces écrits en prose qui utilisaient pour la première fois depuis le Moyen Âge la langue nouvelle que chacun parlait, la langue romane. La nouvelle vient aussi de cette idée de nouveauté. À peu près à la même époque, en France, l'on a cessé d'utiliser le mot « rimeur » de « rime » pour parler de poésie et de poète, du verbe grec « poiein » créer. L'écrivain, le poète, le romancier sont donc des créateurs. Cela ne veut pas dire qu'ils inventent le langage, cela veut dire qu'ils l'utilisent pour créer de la beauté, de la pensée, de l'image. C'est pourquoi l'on ne saurait se passer d'eux. Le langage est l'invention la plus extraordinaire de l'humanité, celle qui précède tout, partage tout. Sans le langage, pas de science, pas de technique, pas de loi, pas d'art, pas d'amour. Mais cette invention, sans l'apport des locuteurs, devient virtuelle. Elle peut s'anémier, se réduire, disparaître. Les écrivains, dans une certaine mesure, en sont les gardiens. Quand ils écrivent leurs romans, leurs poèmes, leur théâtre, ils font vivre le langage. Ils n'utilisent pas les mots, mais au contraire, ils sont au service du langage. Ils le célèbrent, l'aiguisent, le transforment, parce que le langage est vivant par eux, à travers eux, et accompagne les transformations sociales ou économiques de leur époque. Lorsque, au siècle dernier, les théories racistes se sont fait jour, l'on a évoqué les différences fondamentales entre les cultures. Dans une sorte de hiérarchie absurde, l'on a fait correspondre la réussite économique des puissances coloniales avec une soi-disant supériorité culturelle. Ces théories, comme une pulsion fiévreuse et malsaine, de temps à autre ressurgissent, ça et là, pour justifier le néocolonialisme ou l'impérialisme. Certains peuples seraient à la traîne, n'auraient pas acquis droit de cité, de parole, du fait de leur retard économique ou de leur archaïsme technologique. Mais s'est-on avisé que tous les peuples du monde, où qu'ils soient, et quel que soit leur degré de développement, utilisent le langage? Et chacun de ces langages est ce même ensemble logique, complexe, architecturé, analytique, qui permet d'exprimer le monde, capable de dire la science ou d'inventer les mythes. Ayant défendu l'existence de cet être ambigu et un peu archaïque qu'est l'écrivain, je voudrais dire la deuxième raison de l'existence de la littérature, car celle-ci touche davantage au beau métier de l'édition. L'on parle beaucoup de mondialisation aujourd'hui. On oublie que le phénomène a commencé en Europe à la Renaissance, avec le début de l'ère coloniale. La mondialisation n'est pas une mauvaise chose en soi. La communication rend le progrès plus rapide en médecine ou en science. Peut-être que la généralisation de l'information rendra les conflits plus difficiles. S'il y avait eu Internet, il est possible que Hitler n'eût pas réussi son complot mafieux. Le ridicule l'eût peut-être empêché de naître. Nous vivons, paraît-il, à l'ère de l'Internet et de la communication virtuelle. Cela est bien, mais que valent ces stupéfiantes inventions sans l'enseignement de la langue écrite et sans les livres? Fournir en écran à cristaux liquides la plus grande partie de l'humanité relève de l'utopie. Alors, ne sommes-nous pas en train de créer une nouvelle élite, de tracer une nouvelle ligne qui divise le monde entre ceux qui ont accès à la communication et au savoir et ceux qui restent les exclus du partage? De grands peuples, de grandes civilisations ont disparu faute de l'avoir compris. Certes, de grandes cultures que l'on dit minoritaires ont su résister jusqu'à aujourd'hui grâce à la transmission orale des savoirs et des mythes. Il est indispensable, il est bénéfique de reconnaître l'apport de ces cultures. mais que nous le voulions ou non, même si nous ne sommes pas encore à l'âge du réel, nous ne vivons plus à l'âge du mythe. Il n'est pas possible de fonder le respect d'autrui et l'égalité sans donner à chaque enfant le bienfait de l'écriture. Aujourd'hui, au lendemain de la décolonisation, la littérature est un des moyens pour les hommes et les femmes de notre temps d'exprimer leur identité, de revendiquer leur droit à la parole et d'être entendus dans leur diversité. Sans leur voix, sans leur appel, nous vivrions dans un monde silencieux. La culture, à l'échelle mondiale, est notre affaire à tous, mais elle est surtout la responsabilité des lecteurs, c'est-à-dire celle des éditeurs. Il est vrai qu'il est injuste qu'un Indien du Grand Nord canadien, pour pouvoir être entendu, ait à écrire dans la langue des conquérants, en français ou en anglais. Il est vrai qu'il est illusoire de croire que la langue créole de Maurice ou des Antilles pourra atteindre la même facilité d'écoute que les 5 ou 6 langues qui règnent aujourd'hui en maîtresse absolue sur les médias. Mais si par la traduction, le monde peut les entendre, quelque chose de nouveau et d'optimiste est en train de se produire. La culture, je le disais, est notre bien commun à toute l'humanité. Mais pour que cela soit vrai, il faudrait que les mêmes moyens soient donnés à chacun d'accéder à la culture. Pour cela, le livre est, dans tout son archaïsme, l'outil idéal. Il est pratique, maniable, économique. Il ne demande aucune prouesse technologique particulière et peut se conserver sous tous les climats. Son seul défaut, et là je m'adresse particulièrement aux éditeurs, est d'être encore difficile d'accès pour beaucoup de pays. À Maurice, le prix d'un roman ou d'un recueil de poèmes correspond à une part importante du budget d'une famille. En Afrique, en Asie du Sud-Est, au Mexique, en Océanie, le livre reste un luxe inaccessible. Ce mal n'est pas sans remède. La coédition avec les pays en voie de développement, la création de fonds pour les bibliothèques de prêt ou pour les bibliobus, et d'une façon générale, une attention accrue apportée à l'égard des demandes et des écritures dans les langues dites minoritaires, très majoritaires en nombre parfois, permettrait à la littérature de continuer d'être ce merveilleux moyen de se connaître soi-même, de découvrir l'autre, d'entendre dans toute la richesse de ses thèmes et de ses modulations le concert de l'humanité.